renouvelle jour après jour après jour. Mais là, on va enfin passer à quelque chose d'un peu plus concret. Et notre responsabilité, ça, c'est les choses, parce que les résultats de ce qui produira le fruit de l'esprit, on a dit, bah justement, hein, c'est dans le titre, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas le fruit de mes efforts pour laisser l'esprit. Il y a, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas notre part de responsabilité quand même. Parce que, comme on l'a déjà dit, le Saint-Esprit ne va pas forcer la chose. Il ne force pas le salut, il ne va pas forcer non plus son contrôle sur nous. Et c'est à nous d'avoir cette volonté de nous soumettre. Mais c'est bien plus que juste dire, bah, il faut qu'on se soumette au Saint-Esprit, qu'on l'obéisse. Il y a un processus, on a une responsabilité. Et souvent, il nous arrive de regarder au fait d'être rempli ou contrôlé, soumis par le Saint-Esprit, de la même manière que nous regardons le passage en Éphésiens, hein, qui nous dit de nous revêtir de l'armure de Dieu. Je suis étonné de voir que beaucoup de chrétiens connaissent ce passage, mais le plus qu'on parle avec eux, le plus qu'on a l'impression que pour eux, le fait de revêtir l'armure de Dieu est quelque chose d'optionnel et pas quelque chose d'indispensable. Alors que l'un comme l'autre, hein, que ce soit l'armure de Dieu, que ce soit d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose qu'on doit absolument. C'est dans le monde, n'importe quelle personne dira que si je suis enrôlé dans l'armée et que je suis sur le front et que on me dit ben, on est sous attaque, ah ben j'ai pas besoin de mes armes, je n'ai pas besoin de mon équipement, je n'ai pas besoin de tout cela. Et j'ai récemment justement lu hein, quelqu'un qui en parlait de cela par rapport à l'armure de Dieu. Il me dit, c'est vrai que bon, avec l'armure que nous voyons dans le Nouveau Testament, avec le casque, la cuirasse, le bouclier, l'épée, c'est pas la manière que le soldat est vêtu aujourd'hui. Mais il dit, est-ce que vous savez quel est le comment dire le l'équipement, c'est un mot tellement difficile à se rappeler, l'équipement le plus important de tous pour le soldat. Et il laissait le temps les gens répondre. Il dit, certains disaient, bah, c'est l'arme sous le casque, c'est ceci. Il dit, non, c'est moyen de communication. Et c'est que ce soit une oreillette, que ce soit le talkie-walkie, que ce soit le smartphone, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais généralement c'est des oreillettes, hein, c'est des trucs par satellite, etc. Mais c'est l'information. Ils doivent savoir ce qu'il doit faire, où, quand, comment. Et d'ailleurs, les attaques aujourd'hui, la première chose qu'ils essaient de couper, c'est justement la communication, pour qu'ils ne puissent pas se coordonner entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui reste pour nous, en tant que soldats de Christ, chrétiens. Notre communication, ce n'est pas seulement entre nous, mais c'est tout d'abord avec notre chef et avec notre Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Je vais tout prendre, je vais tout laisser sauf ma radio. Non, bah, parce que quand tu reçois l'ordre à travers la radio que prends ton arme, ah ben bah, je l'ai laissé. Ou fais ceci. Non, il dit, c'est d'être rempli, d'être contrôlé par le Saint-Esprit, tout comme l'armure de Dieu que nous donne, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose qu'on doit voir comme étant indispensable, pas quelque chose aujourd'hui je choisis de le prendre ou dans cette situation je choisis ou non. Non, c'est pas optionnel du tout. Et en Éphésiens hein, chapitre 5 versets 17 et 18, on a déjà parlé de ce verset, et c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. La raison pourquoi on prend ce texte, c'est à cause de cette dernière phrase. Soyez remplis de l'esprit. Quand c'était écrit dans le grec, c'était écrit au mode impératif. Et le mot veut dire ce qu'il dit. C'est impératif. On doit l'accepter comme étant un ordre et non comme étant une suggestion et non comme étant une option. Soyez au contraire remplis de l'esprit. on doit accepter cela, que c'est un ordre que notre chef nous donne, c'est ce que je dois faire. Il est impératif que nous soyons remplis, que nous soyons contrôlés par l'esprit. Toute autre situation devient inacceptable. Je ne peux pas prendre ma situation spécifique et personnelle et dire mon cas est une exception à la règle. Ça n'existe pas. Quand Dieu donne un ordre impératif, le reste ne compte plus. Quand il dit que vous ne pouvez être sauvé que par la grâce, au moyen de la foi, et pas par les œuvres, peu importe ta situation spécifique, ça ne va pas compter. Et être rempli du Saint-Esprit n'est donc pas quelque chose de facultatif, mais indispensable pour tout chrétien, sans exception. C'est impératif et tout autant adressé au prédicateur qu'au père, qu'à la mère ou l'enfant. Ce n'est pas que les personnes qui sont sauvées depuis un certain nombre d'années. Maintenant que vous êtes sauvés depuis 20 ans, vous pouvez maintenant commencer à être rempli du Saint-Esprit. Non, l'enfant qui est sauvé, dès son salut, peut apprendre que lui aussi doit être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour tout le monde. Tant que la personne est une personne née de nouveau, ayant le Saint-Esprit donc en elle, cette personne se doit impérativement de se laisser contrôler par le Saint-Esprit dans sa vie. Vous remarquerez que cet ordre « soyez rempli » est également au présent, n'est-ce pas? Il dit « soyez aujourd'hui rempli, chaque jour, soyez soumis et donc contrôlés par le Saint-Esprit. » Et ce n'est pas tout, cet ordre est également à la voie passive. Il ne dit pas « remplissez-vous du Saint-Esprit », il dit « soyez rempli ». Ce n'est pas à moi de me remplir, c'est à moi de laisser le Saint-Esprit me remplir. Deux choses bien différentes. Il indique par ceci qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes et on ne peut pas faire quelque chose pour qu'on mérite d'être rempli. On doit se vider de nous-mêmes pour laisser la place au Saint-Esprit. C'est un acte de soumission, c'est un acte de foi, en comprenant que l'être rempli du Saint-Esprit est une grâce que Dieu donne. Il nous donne l'ordre qu'on doit l'être, mais le fait de l'être est une grâce. Ce n'est pas ma piété ni la consécration qui me qualifie d'être rempli. Elle n'est pas réservée pour les élites, pour ce que les autres appelleront les super chrétiens, mais à ceux qui reconnaissent, comme on avait vu la semaine dernière, qu'on ne peut rien sans lui. Et que, heureusement que cet ordre soit rempli, et non seulement à l'impératif, mais également à la voie passive, que c'est un acte que lui doit faire par moi. Parce que c'est par la foi que je vais pouvoir me laisser remplir, être contrôlé par le Saint-Esprit. Parce que pour que ce soit une grâce, hein, ce n'est pas une récompense que Dieu me donne pour mon obéissance. C'est une grâce. Le salut n'est pas une récompense, n'est-ce pas? Le salut est une grâce. Mais il faut, pour que le salut s'opère, que je fasse abstraction du moi, je ne peux pas me sauver par mes moyens et par mes œuvres, je te laisse tout entre tes mains. Et c'est ce qu'on fait quand on se soumet au Saint-Esprit. Ce n'est plus moi, ma volonté et ma préférence qui importe. Je me laisse entre tes mains. Tu me dis, qu'est-ce que il est préférable? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas une récompense. C'est une grâce d'être pouvoir être sous contrôlé, rempli du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, hein, pour un besoin que nous ne pouvons pas pourvoir nous-mêmes. On doit comprendre que quand Dieu ordonne quelque chose, qu'elle sera toujours possible d'obéir à cet ordre, n'est-ce pas? Dieu ne va pas donner un ordre qui reste impossible, même si lui doit nous aider dans le processus de l'obéissance. Avec son aide, il sera toujours possible d'obéir à l'ordre que Dieu nous donne. Quels sont les plein d'autres ordres, où, comme ici, où on l'a vu, il dit « soyez remplis ». Il y a plein d'autres passages où on voit que Dieu nous donne un ordre direct, impératif, présent, continu. Où il dit « soyez remplis de l'Esprit ». Ou comme, en, je crois que c'est en Thessaloniciens, « soyez reconnaissants ».« Soyez joyeux ».« Aimez-vous les uns les autres ». Pardonner comme Dieu pardonne, toutes ces choses sont des ordres, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des suggestions. Ou quand il dit « priez sans cesse », ça me semble difficile. Je vais prendre ça comme une option. Quand j'y pense, je prierai. Ou quand il dit portez les fardeaux les uns des autres. Encore, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une exhortation. Je veux que vous montrez de l'amour, de la compassion et que vous aidez les uns les autres. Pas alourdir le fardeau de l'autre en disant, mais tu devrais pas être. Ce fardeau ne devrait pas te peser autant que moi. Ça, non, de l'aider à porter son fardeau, tout comme nous, on aura besoin de l'aide à un moment donné également. Et on peut continuer cette liste. Il y a plein de versets à travers la parole de Dieu qui nous montrent où il nous donne ses ordres. C'est impératif, mais c'est parce que, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir obéir à tous ces ordres, d'être toujours être reconnaissant, de toujours pardonner à ceux qui me font des offenses, de porter les fardeaux de tous, etc., de par mes propres forces? Bien sûr que non. Il va même nous aider à pouvoir obéir aux ordres qu'il nous donne. Alors quand il nous dit, soyez remplis, il faut savoir et comprendre que c'est possible. Ce n'est pas hors de notre portée parce que lui nous aide à y accéder. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais ce soyez rempli, c'est dans un présent continu. Nous pourrions le traduire littéralement, c'est pas du bon français, mais si on voulait le traduire littéralement, on pourrait dire soyez en train d'être rempli. C'est soyez en train et continuez en train, en train, en train, sans cesse. Parce que quand on comprend que se remplir, c'est également cette idée de soumission, on sait que juste parce que j'étais soumis une fois, que je ne vais pas toujours être soumis pour toujours non plus en toute chose. On comprend donc que ce n'est pas un ordre qu'on doit obéir et dire aujourd'hui je prie Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit, ça y est, c'est bon, je suis soumis, c'est réglé pour le restant de ma vie. On comprend que c'est un processus qu'on doit répéter. Et je dirais même que c'est plus qu'on doit répéter bien plus qu'une fois par jour. Ce n'est pas juste parce que je me lève chaque matin et que je prie cette prière, ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais vraisemblablement, je vais devoir répéter cette prière pendant la journée. Seigneur, je me suis égaré. Seigneur, je me suis laissé aller à ma chair, à mon orgueil, à ma fierté. Je me suis laissé aller par mes émotions. Seigneur, pardonne-moi. Je veux être contrôlé, soumis à toi. Et c'est un présent continu. Soyez en train d'être rempli. C'est plus facile, comme on dit, à comprendre quand on pense au fait d'être rempli du Saint-Esprit par le fait d'être contrôlé ou plutôt d'être soumis au Saint-Esprit. Toute soumission que nous donnons envers une personne devra toujours être renouvelée avec chaque volonté de cette personne, n'est-ce pas? Pasteur Dolaire vient d'assister à un mariage. Généralement, très souvent, lors des mariages, on demande, surtout, pourquoi, je ne vais pas me prononcer, mais généralement, c'est envers la femme. Est-ce que tu vas aimer, chérir, te soumettre à ton mari? Et elle dit oui, s'ils veulent se marier. Elle va dire oui. Mais est-ce que c'est parce qu'elle a dit oui, devant tous ses témoins, une fois, qu'elle le sera toujours le restant de sa vie? On sait bien que non. On sait que c'est un processus, c'est un travail. Et les deux vont travailler ensemble pour que lui, il lui donne, elle, à elle, envie de se soumettre, que c'est un plaisir, parce qu'elle, il prend bien soin d'elle, il ne va pas lui demander de faire des choses qui sont dégradantes ou je ne sais quoi d'autre. C'est oui, je me soumets parce que je l'aime. Et n'est-ce pas aussi notre motivation de pourquoi on devrait vouloir se soumettre au Saint-Esprit? Est-ce que notre amour pour Dieu ne devrait pas être notre source première? C'est pas juste une question d'avoir de la foi, de vouloir le laisser contrôler ce que lui sait être meilleur pour nous, mais n'est-ce pas la même relation de parce que je t'aime, je sais que tu ne vas rien me demander de faire qui soit mal pour moi, qui soit mauvais pour moi. Je te fais confiance. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on a quatre étapes, on n'en verra qu'un ou deux ce soir, quatre étapes très simplifiées pour nous aider justement à obéir à l'ordre de Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça va commencer avec un examen personnel. C'est le chrétien qui est vraiment sérieux dans sa marche personnelle avec le Seigneur voudra s'assurer chaque jour d'être en règle avec Dieu. il n'aura aucun problème à vouloir s'examiner pour s'assurer qu'il est conforme à la volonté de Dieu. Il va vouloir le faire. On a combien de psaumes est-ce que j'aurais pu marquer où David il dit, sonde-moi, cherche-moi, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ça, c'est qu'un seul passage, il y en a pas mal. Mais on peut également voir 2 Corinthiens 13, 5. Ça, c'est pour les examens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et on ne devrait pas avoir peur de vouloir s'examiner régulièrement, quotidiennement, et dire, Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que dans ta volonté. Je ne veux pas même reprendre les rênes du contrôle de ma vie. Je te les ai données, je veux te les laisser. Et parfois, on les reprend, même avant qu'on ne s'en rende compte. Et de s'examiner. Il dit même, il devrait être suffisant, examinez-vous vous-même. Mais il dit, éprouvez-vous vous-même. Et on pourrait prendre le temps de voir plus en détail ce passage, mais après, ça, on a une étude qui dure sur 2 ans. Mais la personne qui est sérieuse va pas regarder au fait de s'examiner d'une manière négative. Il va voir cela comme étant une bonne chose. Il n'aura aucun problème à demander à Dieu de le sonder, de l'examiner, parce que son désir, c'est de s'approcher et non de s'éloigner de Dieu. Il n'aura aucun problème à reconnaître qu'il ne peut pas être rempli, qu'il ne peut pas être contrôlé au Saint-Esprit si lui choisit d'ignorer ou excuser un péché dans sa vie. Vous connaissez peut-être 1 Jean chapitre 1er verset... Est-ce que j'ai mis de mauvais? Parce que là, c'est bon, peut-être que j'ai marqué 7, mais je crois que ça devait être 18 à 22. Peut-être que je l'ai mal marqué ici. C'est bien celui-là. Le verset me semblait bien, mais dans mes notes, ça m'a fait créer un doute maintenant. Ouais. Bon, celui-là, il est pas mal aussi, mais on va lire les deux. Comme ça, vous avez les deux. Tiens. Mais si nous marchions dans la lumière comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bon, vous avez vu, j'ai mis les si en grand parce que c'est conditionnel. Pas à Dieu, c'est conditionnel à nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Donc, le chrétien qui va s'examiner, il n'aura aucun problème à dire, si il me révèle quelque chose, tu sais, ce que tu as fait tout à l'heure, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais la raison de pourquoi tu l'as fait était mauvaise. Ton attitude était mauvaise. Même la façon que tu l'as faite était mauvaise. Tu as voulu le faire un peu pour avoir l'attention sur toi ou quelle que soit la raison. Mais il va nous montrer toutes choses qui ne sont pas conformes à sa sainteté. Tout péché, de toutes sortes. Et souvent, on essaye de les excuser au lieu de faire comme là, si nous disons qu'on n'a pas péché, nous le faisons lui menteur. Comment pouvoir dire que là je continue à être rempli, soumis au Saint-Esprit, quand lui me révèle un péché, mais je refuse de l'admettre. J'essaie de l'excuser, j'essaie de le rationaliser. Ouais, je ne vais pas partager l'autre passage, ça va. J'ai encore extrapolé sur celui-là aussi. Mais le chrétien qui veut être rempli quotidiennement, régulièrement, tout le temps du Saint-Esprit, il regardera à cet auto-examen comme quelque chose de positif. Il voudra peut-être même à essayer d'en faire une habitude, quelque chose qui vient dans... C'est facile, c'est pas quelque chose, oh, il faut que j'y pense. Au début, ça le sera. Quand quelque chose n'est pas encore une habitude, oui, c'est du travail. Mais il voudra justement y travailler pour que ça devienne une habitude. Et pour que ça ne devienne pas quelque chose de contraignant. Mais il ne se compare pas non plus avec les autres. Le chrétien qui va faire cette auto-examination pour s'assurer qu'il est conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas lui qui va se comparer aux autres. Il va se comparer à ce que le Saint-Esprit lui révèle, à ce que Dieu lui révèle. Ah oui, je fais ça. C'est vrai que l'autre, peut-être qu'il fait pire, c'est pas grave. J'ai fait ça. C'est ça qui importe entre moi et toi pour l'instant. Lui, sa relation, ça concerne lui et toi. Il voit cette habitude de la même façon qu'il voit le besoin de se laver les mains, prendre une douche ou enlever toute saleté dans sa vie. Il va pas continuer à passer à travers la journée en sachant qu'il a une grosse tache de graisse parce qu'il a travaillé sur la voiture et qu'il a mis une grosse marque sur sa joue. Il va pas continuer à se balader en ville et aller au marché sans s'essuyer, sans enlever ça avant. Et le chrétien, c'est un peu pareil. Il dit, je ne veux pas de ce péché rester sur moi. Si le Saint-Esprit, je fais cette examination, je demande au Saint-Esprit de m'éclairer, de me montrer qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour justement le but de l'enlever et de la, non de l'excuser, de garder cette tâche sur moi. Et la raison même de cet examen personnel, c'est pour s'apercevoir s'il y a la moindre chose dans sa vie qui ne glorifie pas Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire à travers le salut. Le salut nous apporte énormément de bénédictions, de choses bonnes et d'encouragement. Mais qui pourra me dire que Dieu ne désire pas être glorifié à travers nous grâce au salut qu'il nous a donné? S'il manque un seul des caractéristiques de l'esprit, que ce soit la joie, l'amour, la patience, la bonté, etc., alors il sait qu'il doit passer à l'étape 2, qu'on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais l'examen personnel, hein, n'est que la première étape. Mais il va de soi qu'on devra être honnête, on devra montrer de l'humilité, qu'on doit être sensible à ce que Dieu et le Saint-Esprit nous révèlent. Ce n'est pas parce que on en fait une habitude qu'on doit commencer à la prendre à la légère non plus. Seigneur, montre-moi, on dit la prière, mais pas vraiment avec une grande sincérité. Parce qu'il faut qu'on se rappelle. J'en fais une habitude de m'auto-examiner parce que Dieu m'en a donné l'ordre d'une manière impérative que je dois être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin de, pas seulement l'ordre, mais que je dois comprendre et accepter que j'ai besoin de cela dans ma vie. Que le plus que je suis, le plus dans le sens, dans le temps, dans la durée, plus longtemps que je suis vraiment rempli, contrôlé, soumis au Saint-Esprit, le moins que je vais passer du temps à faire des choses que je vais regretter, penser des choses que je regrette, dire des choses que je regrette. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de son aide. Et j'ai même besoin de lui quand je fais cette auto-examination, pour savoir s'il y a la moindre chose qui l'enfreint, qui le déplaît, qui l'empêche de me remplir entièrement, de pouvoir me soumettre entièrement à sa volonté. Je dois admettre si je manque de joie ou si je manque d'amour. Ah non, mais ce jour-là, j'étais pas bien, c'est pas que je l'aime pas, mais il me prenait la tête et puis. Non, j'ai manqué d'amour. Il faut que je sois rapide à l'admettre si je veux pouvoir le confesser pour pouvoir laisser place au Saint-Esprit. Ou si j'ai manqué de maîtrise de soi ce jour-là, ou quoi que ce soit d'autre dans ma vie, à cet instant même, et non faire semblant que tout va bien ou de faire que ce n'est pas si grave. Si le Saint-Esprit ne révèle rien, alors on peut aller à notre journée avec confiance. On est en règle. On est soumis. On lui donne l'accès, on lui a ouvert la porte pour qu'il puisse nous remplir de sa présence, de sa volonté. Sinon, ben on doit passer à l'étape 2. On verra. Faudra confesser ce péché. C'est un processus aussi. On en parlera, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et pour l'instant, on va s'arrêter là pour que je ne dépasse pas l'heure. Est-ce qu'il y aurait soit des questions ou des...